Et de dire les choses qu'on avait envie de dire.
Mais là, aujourd'hui, vous êtes combien dans ce collectif? Parce que vous produisez beaucoup, hein. Il y a un texte qui sort tous les 2-3 jours, et c'est pas des petits textes légers. Il y a des analyses souvent très fouillées. C'est un boulot dense, très souvent.
Bah, Pierre Thévenion. La composition du collectif, elle est très informelle. On est en tout et pour tout deux à décider de la ligne éditoriale, c'est-à-dire à centraliser toutes les propositions de texte ou à, inversement, solliciter des gens pour écrire sur divers sujets. Donc on est deux à animer, à faire le travail d'animation. Et après, c'est très difficile à dénombrer parce que c'est une série de cercles concentriques, de proches qui sont des collaborateurs réguliers qui, lorsqu'ils écrivent, écrivent presque pour le site ou en tout cas pensent tout de suite au site lorsqu'ils ont des idées de texte. Mmh. Et puis des cercles plus larges, de contributeurs plus irréguliers, plus occasionnels. Certains sont aussi des gens qui ont écrit des textes qu'on prend, nous, l'initiative de republier pour leur donner une autre audience. Par exemple, un texte qui est sorti dans une revue un petit peu confidentielle ou uniquement sur papier ou un chapitre d'un livre qui nous paraît particulièrement intéressant. Il y a un petit peu plus d'un millier de textes.
Ah oui, quand même, sur 10 ans.
Sur 10 ans, donc ce qui fait une moyenne de 100 par an avec effectivement une centaine de personnes qui ont écrit sur le site. Mais il n'y a pas de carte, ils ne sont pas encartés au collectif, les mots sont importants. Tout ça est très informel.
C'est-à-dire que les auditeurs vont vous envoyer des textes, faites attention, vous allez être submergé par des quantités de textes.
De toute façon, on reçoit, alors on ne publie pas tout, il nous est arrivé de publier.
Alors quand vous publiez pas, quand vous envoyez un texte, vous êtes des censeurs, vous dégonflez.
On n'a pas eu trop d'injures.
Non, pas encore.
Jusqu'à présent, ça a été plutôt bien pris.
31 textes que vous avez regroupés à la fois par date et par chapitre. On a l'impression que on revient sur des tas de choses qu'on a oubliées, évidemment, sur ces 10 ans. Surtout que c'est certaines choses que vous avez sélectionnées comme étant quoi? Comme étant révélatrices d'une époque, d'un moment, de ces 10 années? Ou simplement des textes sur lesquels vous avez travaillé, des moments, des épisodes sur lesquels vous avez travaillé. Pourquoi cette construction?
C'est vraiment une construction qui a obéi à plusieurs logiques. C'était d'abord des textes qu'on aimait bien et puis qui ont été beaucoup lus, qu'on avait envie de rassembler pour des lecteurs qui connaissaient déjà mais qui pouvaient avoir envie de les avoir comme ça sous forme écrite. Il y a eu une logique de thème aussi et puis une logique qui consiste à être vouloir souligner aussi les modifications, les changements qu'il y a pu avoir dans ces 10 dernières années dans les mots de cette nouvelle langue justement. Avec des mots qui sont apparus, on parle par exemple de la question de la diversité la question de cette fameuse question de la mixité sociale, qui sont du communautarisme par exemple, et qui marquent des manières différentes aussi de s'exprimer.
De masquer la même chose.
Voilà, c'est ça.
Très souvent. Alors, on peut venir sur les différents chapitres, les poupées ventriloques par exemple, vous déconstruisez complètement les sondages en reposant d'autres questions.
Oui.
Vous reposez d'autres questions qui ne sont jamais posées, on s'aperçoit. Évidemment, la réponse est dans la question. Et la question induit certaines réponses, on le sait déjà, mais là, vous le montrez. Vous mettez ça à plat d'une manière... Évidemment, à chaque fois, il faut prendre la peine de vous lire, quoi. Hein, ça va pas vite. C'est pas des petits articles, des petits articulés, c'est des papiers de fond.
Il y en a des plus courts aussi, des billets, qui étaient un petit peu des billets d'humeur. Et puis, il y en a des plus longs, comme effectivement, notamment ces articles sur les sondages. Notamment un qui revient sur un sondage qui avait été fait après les fameuses émeutes, entre guillemets, de 2005. Alors qu'il concluait au fait que, les Français étaient favorables à un dispositif qui a été pris par le gouvernement à l'époque, qui était le couvre-feu. Alors, on revient justement sur la manière dont la question a été posée. Puis la manière dont plein d'autres questions qui auraient pu être tout aussi légitimes,
sans doute
plus, n'ont pas été posées.
Oui, exemple, pensez-vous, on aurait pu poser une question par exemple, pensez-vous que les jeunes émeutiers soient les seuls responsables de la situation? Voilà, c'est le genre de question qui n'est jamais posée, mais on voit bien que dans la question, ça induit quand même des réponses qui pourraient ne pas être défavorables aux émeutiers, par exemple.
Voilà.
Pensez-vous que le gouvernement actuel a une responsabilité dans les affrontements et les dégradations qui frappent actuellement certaines banlieues? Il se peut très bien que les personnes consultées aient tendance à dire oui, par exemple. Non. C'est vrai, c'est drôle. Approuvez-vous les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la racaille et le nettoyage au Kercher, des cités populaires, voilà. Et c'est vrai que on voit tout de suite, par les questions que vous inventez, que les autres le sont aussi.
Voilà, c'est ça, que c'est pas une langue neutre, que la langue journalistique n'est pas une langue neutre comme elle prétend être.
C'est ça, parce qu'à partir de ces sondages, on construit tout un discours, évidemment, et des éditorialistes brillants s'appuient sur ce qui est présentés comme évidemment indiscutables, puisque ce sont des chiffres.
Oui.
Et parce que c'est non seulement indiscutable scientifiquement,